et avec surtout beaucoup d'amour et beaucoup de joie qu'on reçoit ce soir également Monsieur Dominique Brèche qui va nous parler de l'association ACER. Je veux vous dire qu'effectivement je vais être découverte en découverte. Donc on va aller dans un bel univers, je suis certain. On va partir de Cannes-la-Bocca pour aller du côté de Kine. On va pas rencontrer Papa Wemba, Nico Fiolomide ou encore d'autres lumières évidemment de la scène quinoise, mais surtout on va parler ici d'amour parce qu'on parle d'enfants en fait, entre autres. Alors Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu à notre rencontre ce soir, d'avoir poussé les portes d'Agora Côte d'Azur.
C'est moi qui vous remercie.
Mais c'était un grand plaisir, en tout cas n'hésitez pas, la prochaine fois vous venez quand vous voulez, ça vous appartient, c'est votre émission. Alors Dominique, finalement vous avez ici initiative d'être quelque part, on va dire le centre, l'homme orchestre de l'association ACER, c'est bien ça, je me trompe?
Oui, mais enfin, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là.
Non, mais l'homme orchestre, de toute façon, quand on est orchestre, effectivement, l'homme orchestre, on est à la fois le maestro, on va de la batterie en passant par l'autre côté, mais en même temps, évidemment, on est un orchestre tout en part entière, avec évidemment ceux qui vous accompagnent. Alors, quand est-ce qu'est née justement votre structure?
Alors, l'association ACER est née il y a 10 ans maintenant. En septembre, nous allons fêter nos 10 ans. Et en amont de ça, il y avait déjà des choses qui se passaient avant d'être structurées en association sur le terrain à Kinshasa.
Kinshasa. Et pourquoi Kinshasa d'ailleurs?
Alors, ça, c'est une longue histoire.
Je vais faire plus courte.
Ouais. Il se trouve que j'ai une amie qui s'appelle Mouna. Mm-hmm. Et pour faire court, Mouna est une jeune femme qui avait un rêve parce que quand elle était petite, elle a eu une vie un peu difficile. Ah. Et un jour, elle a eu à la fois ce rêve et cette prière de dire qu'un jour elle adopterait tous les enfants du monde.
Ah.
Et quelques années plus tard, en 2003, elle était devenue jeune femme et elle est partie pour un séjour d'un mois à Kinshasa sur invitation. Et quand elle est arrivée là-bas, elle qui était occidentale, enfin de par sa culture en tout cas, elle a découvert un monde très différent et surtout elle a été confrontée à une pauvreté, il y a une misère qui l'a ébranlé et qui concernait les chégués, donc comme on les appelle là-bas, les enfants de la rue, qui sont environ aujourd'hui à peu près 30 000 à peupler les rues de Kinshasa. Donc,
paradoxe quand même, dans un pays qui est l'un des pays les plus riches du monde, et d'avoir autant de pauvreté finalement, naître dans une richesse finalement, dormir sur l'or et être pauvre, c'est quand même un paradoxe, non?
Oui, je crois que Kinshasa est la ville de tous les paradoxes de ce point de vue-là, puisqu'on y trouve aussi bien des centres hyper modernes, des universités et des gens très riches, et à côté de ça, eh bien, on peut trouver des quartiers et des endroits qui ressemblent à de véritables bidonvilles, et où la misère et la violence règne en maître dans la rue, quoi.
D'accord. En tout cas, Kinshasa aujourd'hui, justement, par rapport à votre action, vous en êtes où exactement? Comment vous fonctionnez?
Alors, notre association a pour but, deux buts principaux. Le premier, c'est de faire du parrainage d'enfants. Et le deuxième but, c'est de fournir, disons, des moyens, qu'ils soient financiers ou matériels, aux équipiers qui sont sur place, dont Mouna, donc la présidente de l'association, pour mener à bien les projets qui ont lieu là-bas. Alors, dans un premier temps, le parrainage d'enfants se produit ainsi. Au tout début, on a commencé avec une quinzaine d'enfants, avec quelques amis. Et puis, ces enfants, on les a sortis de la rue, on leur a offert un repas par jour, mais ils continuaient à être placés dans des centres d'hébergement. Et puis, par la grâce de Dieu, on a réussi à trouver une maison où on a pu accueillir là une bonne quarantaine d'enfants. C'est la Maison de l'Espoir. Et cette maison, donc les enfants, ils sont pris en charge, on leur offre 3 repas par jour, ils sont logés, on pourvoit à leurs besoins primaires, et ils ont une scolarité également qui est prise en charge. Ils ont des éducateurs qui sont avec eux pour les encadrer, pour répondre à leurs besoins. Et c'est ainsi que le premier but est recherché. Le deuxième but, c'est que là-bas, il y a beaucoup de besoins. Il faut pouvoir financer déjà les salaires de ceux qui sont là-bas. Et puis, il faut également arriver à financer, par exemple, tous les frais de scolarité qui peuvent exister, les frais universitaires, et puis tous les frais annexes qu'il peut y avoir, quoi. Parce que la vie là-bas à Kinshasa est très très chère et la corruption est également très grande, ce qui fait que des fois ce qui pourrait ne pas être très cher le devient par la force des choses. Donc voilà.
En fait, finalement, pour accompagner un projet, vous êtes parfois obligé de payer le triple, quoi.
C'est ça, oui, c'est ça.
En tout cas, vous avez beaucoup de courage, parce que moi, j'aurais du mal. Mais, aujourd'hui, le projet est là, donc il y a cette maison qui existe, il y a cette prise en charge également, ces éducateurs. Alors, vous recrutez sur place, est-ce qu'il y a des personnes qui participent? Vous faites comment?
Non, c'est les éducateurs, par exemple, sont quinois. Mm-hmm. Ce sont des personnes qui ont à cœur, effectivement, d'aider tous ces jeunes et ces enfants. Il y a trois membres, un couple donc et une autre personne qui sont d'ici, de Cannes, et qui sont partis là-bas pour travailler également auprès des Quinois. Mais notre but avant tout, c'est de permettre que les Quinois aident les Quinois à s'en sortir.
Mmh. Alors, donc ici, cette maison est uniquement un lieu d'hébergement, un lieu également de suivi de ces enfants, c'est bien ça?
C'est ça, oui, oui.
D'accord. Donc les enfants sont scolarisés par la suite, ça se passe comment? Enfin, comment grandissent-ils? Comment évoluent-ils?
Eh bien, ils évoluent de la façon suivante, c'est que ils vont d'abord à l'école, ils font normalement toute leur scolarité jusqu'à ce qu'ils aient l'équivalent du bac là-bas. Mmh. Et après, on n'a pas les moyens pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, de financer des études universitaires pour tous les enfants. Mmh. Donc les plus méritants d'entre eux, on leur propose effectivement une bourse et la possibilité de pouvoir continuer. Et effectivement, il y en a plusieurs qui poursuivent, soit dans la médecine, soit comme avocat dans différents domaines des études de ce point de vue-là. Sinon, notre but est avant tout de leur permettre d'arriver à trouver une formation professionnelle pour arriver à exercer un métier, parce que là-bas, c'est très difficile de trouver finalement du travail, même quand on est adulte. Donc, leur donner les moyens un minimum de pouvoir avoir une compétence qui leur permette de pouvoir ensuite gagner leur vie là-bas. Mmh. Et pouvoir fonder un foyer à leur tour, etc. quoi.
Alors finalement, 10 ans, c'est court, hein, c'est aussi long pour faire un bilan. Par rapport à ces enfants que vous avez accompagnés aujourd'hui, certains ont grandi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan? Que sont-ils devenus pour certains d'entre eux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres?
Ce qui me frappe par exemple, c'est l'exemple du frère Benra. Mmh. C'est un enfant que Mouna a recueilli parmi les premiers et qui a grandi selon le modèle que je vous ai décrit et qui aujourd'hui est devenu il a un métier maintenant et lui-même s'est engagé comme éducateur et comme en tout cas comme accompagnateur de ses enfants de la rue pour lui-même redonner ce qu'il avait reçu et il a d'ailleurs lui-même pris chez lui avec son épouse des enfants de la rue pour montrer l'exemple et pour montrer un chemin à suivre pour d'autres, pour dire qu'il y a de l'espoir et que la pauvreté et la misère qui règnent dans ces rues peut aussi s'arrêter et que des fois il suffit d'une toute petite goutte d'eau mais après ça forme des océans comme on dit.
Belle chaîne de l'espoir, donc en fait ça a l'air de bien fonctionner, de bien prendre aussi. Alors comment procédez-vous en fait pour financer vos actions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour que les choses aillent de mieux en mieux?
Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui possède plusieurs dimensions, c'est que à Kanaboka, il se trouve un petit local qui s'appelle la Goutte d'eau. C'est un local où les gens peuvent venir déposer des vêtements, même du petit électroménager ou des jouets encore en bon état mais dont ils ne veulent plus. Et ça fonctionne un petit peu sur le mode du Secours catholique. Donc les gens amènent leurs affaires et la Goutte d'eau revend pour une somme dérisoire ses vêtements, ses objets entre 50 centimes et 5 euros. Et l'ensemble des sommes ainsi récoltées va directement à l'association. Donc c'est une première source de financement que l'on peut faire et ça permet non seulement d'aider finalement les enfants qui sont à Kinshasa, mais ça permet aussi eh bien d'aider les personnes du quartier qui peut-être ont des besoins en vêtements, etc. Et donc c'est une première action à faire. Et après, eh bien, il y a la possibilité de pouvoir faire des dons, bien évidemment, à l'association. Alors, on est toujours en recherche de partenaires et de personnes qui sont prêtes à nous aider, à faire mieux connaître l'association. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une phase où les besoins sont grandissants et on cherche à franchir un nouveau palier en allant plus loin et en essayant de faire mieux connaître l'association déjà dans le coin, dans le département, et on espère peut-être plus loin.
Vous allez y arriver. L'action est belle, évidemment. On est tous dans la dynamique de voir émerger une autre génération, celle évidemment qui permettra de pouvoir mieux vivre ensemble. On écoute un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants. Ah là là, quel plaisir, plaisir de vie, plaisir d'écouter justement ces enfants enchantés. Ça nous ramène du côté de Kinshasa avec l'association ACER, avec Monsieur Dominique Brèche qui est donc dans nos studios. Il me disait tout à l'heure qu'en fait il a fait une brèche dans le mur pour aller du côté de Kin et apporter justement, je dirais, cette petite lumière qui fait justement le bonheur de ses enfants. Ces enfants de la rue, c'est vrai que Kinshasa est tristement célèbre par ses enfants. C'est assez éprouvant, assez difficile, parce que là, et parfois ces enfants sont parfois victimes de tous les maux aussi. Hein.
Oui, il faut peut-être expliquer justement pourquoi ils se retrouvent dans la rue. Ces enfants, en fait, la plupart du temps, ont une famille. Peu sont finalement orphelins, mais beaucoup ont une famille, mais ils sont rejetés et abandonnés par cette famille, d'abord pour des raisons économiques, parce que, bien évidemment, là-bas, le chômage est énorme, et donc, dès qu'il y a un peu trop d'enfants à la maison, eh bien, les parents ne peuvent plus suivre. Donc, l'enfant est d'abord sollicité pour ramener de l'argent, mais si après ça suffit pas, il est mis dehors. Une autre raison, c'est que souvent, eh bien, il y a un des parents qui décède, alors il y a un beau-père ou une belle-mère qui arrive, et puis ce beau-père ou cette belle-mère, eh bien, ne veut pas des enfants qui sont là, donc ils sont également rejetés et abandonnés. Il y a des tas d'histoires malheureuses qui existent comme ça. Et le plus terrible, c'est que un des prétextes qui est les plus faciles à adopter là-bas, c'est d'accuser les enfants de sorcellerie. Alors, soit on dit qu'ils ont
un pouvoir maléfique.
Voilà, ils ont un pouvoir maléfique qui rend malade les gens ou des choses comme ça. Et donc, ils sont des personnes à exorciser. Et puis, si on n'y arrive pas, alors on les met dehors.
Voilà. Aïe, aïe, aïe.
Et après, ces enfants se retrouvent dans la rue. Et là, c'est très difficile pour eux parce que du jour au lendemain, ils doivent apprendre à survivre par eux-mêmes. Alors d'abord, dans un premier temps, eh bien, ils sont confrontés déjà à devoir se faire accepter dans la rue. Il y a souvent des espèces de rituels d'initiation qui ont lieu. Et chez les garçons, par exemple, eh bien, c'est des passages à tabac et des choses comme ça pour montrer sa virilité et pour essayer d'appartenir à un groupe. Parce qu'après, on va être plus fort aussi en groupe pour survivre dans la rue. C'est aussi un moyen parce qu'on va aller chercher de l'argent dans la rue et puis on va l'amener en groupe et puis on va le partager. On va essayer de survivre ainsi comme ça ensemble. Et il y a d'autres enfants, certains enfants vivent alors, je dirais d'une manière honnête, en allant chercher de l'argent, en faisant des petits boulots, etc. Mais il y a aussi beaucoup de vols qui ont lieu et qui rapportent de l'argent. Et au milieu de tout ça, eh bien, les enfants doivent vivre aussi dans la promiscuité, sans parler bien évidemment pour les filles qui sont souvent confrontées très rapidement à la prostitution. Et il y a un rejet qui fait qu'après ces enfants ne reçoivent plus d'amour. On parlait d'amour tout à l'heure. Et je crois que c'est avant tout et au-delà des besoins matériels et financiers, et scolaires, etc. C'est surtout de ça dont ils ont besoin. Et quand ils arrivent à la maison d'espoir, et bien justement cet espoir qu'on leur redonne, c'est avant tout de l'amour. Parce qu'ils en ont été privés et c'est de ça dont ils ont d'abord et avant tout besoin.
Alors, cette maison de l'espoir, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé aussi de la corruption. Finalement, vous n'avez pas eu trop de difficultés à mettre en place ce type de structure avec, évidemment, les questions parfois politiques, de lourdeur administrative qu'on peut retrouver aussi bien en France qu'ailleurs.
Ce point de vue-là, je dirais non. On a dû, bien évidemment, négocier le prix de la maison. Ça, c'est toujours pareil à Kinshasa. Mais non, de ce point de vue-là, je dirais que non. Par contre, la corruption, on peut y être confronté quand, par exemple, un jeune veut suivre tel cours universitaire et puis le prof fait payer ses cours, alors que normalement, ici, à la fac, on suit son cours et puis on a payé son droit d'entrée au début et puis on suit ses cours, je dirais, gratuitement. Là-bas, non, des fois, certains profs, pour se faire un peu de beurre, ils font payer des cours et donc les jeunes sont confrontés à ça. Il y a aussi des problèmes qui existent des fois parce que les frais scolaires augmentent en début d'année d'une manière exponentielle sans qu'on puisse rien y faire et on est obligé de le subir et de devoir suivre ces demandes qui nous sont faites.
Oui.
Donc voilà.
Voilà. Ça, c'est aussi des problèmes sur lesquels, en fait, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter. Alors, finalement, concrètement, aujourd'hui, à combien évaluez-vous, par exemple, la possibilité de venir en aide à un enfant ?
Alors, aujourd'hui, un parrainage plein et entier pour un enfant, ça paraît peut-être élevé par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres associations du même type, mais les besoins, le niveau de vie à Kinshasa étant tellement élevé, on a estimé qu'il était environ de 80 euros. Maintenant, on offre la possibilité à ceux qui n'ont pas ces moyens-là, et on peut le comprendre tout à fait, parce que nous avons nos propres besoins ici en Europe, on va dire, par exemple, que deux familles s'associent pour parrainer un enfant. Alors, par exemple, on peut s'associer à 40 euros chacun, ou faire comme ça, pour compléter. Et après, si on n'a pas la possibilité de faire, là je parle de dons réguliers, vraiment, qui vraiment s'intègre dans un cadre vraiment de parrainage plein et entier, alors on va suivre l'enfant dans la mesure du possible, du début jusqu'à ce qu'il devienne vraiment autonome quand il est grand.
Quand vous parlez de 80 euros, c'est par mois.
C'est par mois, ça comprend donc la scolarité, ça comprend 3 repas par jour, ça comprend le logement à la Maison de l'Espoir avec les premiers, avec tous les soins primaires et qui sont offerts aux jeunes, par exemple les produits de toilette, des habits également, les habits pour l'école, les habits pour le dimanche parce que c'est un peu différent. Tous ces besoins primaires-là sont couverts, les chaussures, etc., avec ce montant-là, quoi.
La vie est aussi chère que ça à Kinshasa ?
La vie est aussi chère que ça, oui.
Impressionnant. Quel est le salaire moyen d'un Congolais ?
Alors ça, j'ai malheureusement pas le chiffre en tête, mais en tout cas, il n'est pas très élevé, ça c'est certain.
Pas très élevé. Oui, alors, oui. Donc finalement, c'est comme on est encore à l'heure où effectivement on se souvient du temps comment il s'appelle encore, l'ex-président du Congo démocratique Zaïre, c'est Mobutu Sese Seko. Alors j'étais encore en train de chercher dans mon réservoir de pensée, on va dire ça comme ça. Et oui, c'est vrai, le système D est toujours régulièrement mis en place de ce côté-là. Il faut beaucoup de créativité en tout cas, hein, donc 80 euros en moyenne pour parrainer un enfant, donc ça aussi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de parrains ?
Eh bien, on en a autant qu'on a d'enfants.
Autant, donc il y a une quarantaine.
Voilà, enfin, un peu plus parce que certains enfants sont parrainés par des fois deux familles.
D'accord, voilà. Donc canois uniquement au niveau national ?
Non, essentiellement surtout du département et quelques familles qui sont effectivement sur le plan national.
Sur le plan national.
Voilà, oui.
En tout cas, rappelez-nous votre adresse. Il y a un site internet, au fait ?
Il y a un site internet, www.azer-parrainage.org.
azer-parrainage.org. Donc, en tout cas, il y a donc toutes ces possibilités, si vous n'avez pas évidemment saisi tout ce qu'on a eu l'occasion de dire ce soir en parlant de l'association Azer, qui a évidemment pris l'initiative d'aller du côté de Kin et de porter justement secours à ces enfants de la rue. Vous pouvez toujours contacter Agora Côte d'Azur et on se fera un plaisir de vous mettre en contact afin de pouvoir venir en aide justement à ces enfants du côté côté du Congo démocratique. En tout cas, monsieur Dominique Brèche, c'était un grand plaisir de vous recevoir ce soir.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Donc, au plaisir de vous retrouver très prochainement sur Agora Côte d'Azur. Venez quand vous voulez, poussez la porte. Et surtout, nous parler d'Azer et d'autres choses qui vont peut-être se réaliser d'ici, on va dire, quelques temps. Donc, on espère aussi retrouver votre association dans le cadre du Festival International Film Panafricain qui va avoir lieu du 16 au 20 avril 2016 du côté de Nouveau-Telkane, Montfleury. En tout cas, merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Et longue vie de succès à l'association ACER.
Merci.